France Inter.
Hello.
Hello.
It's Paul McCartney.
I mean, I'm in awe of McCartney. He's got the gift for melody. He's got the rhythm. He can play any instrument.
Okay, thanks a lot,
Mr. Paul McCartney.
I just like writing songs. It's a hobby, almost, you know.
Right, how you feeling? Good.
Do you have any idea of how many songs you wrote?
I never counted.
Yes, all right. And here we go.
Aujourd'hui, nous poursuivons notre voyage dans le monde d'un des plus grands créateurs de chansons de notre temps. Au cas où vous prendriez l'affaire en route et que vous ne savez pas de qui je veux parler, eh bien ceci va peut-être vous rafraîchir la mémoire.
Yesterday, all my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly, there's a shadow hanging over me. I'm not half the man I used to be. Oh, yesterday came suddenly. Why she had to go, I don't know, she wouldn't say. I said something wrong, now I long for yesterday. Yesterday, love was such an easy game to play. Now I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. Why she had to go, I don't know, she wouldn't say. I said something wrong, now I long for yesterday. Yesterday, love was such an easy game to play. Now I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday.
Seul à la guitare, sans le quatuor à cordes qui orne la version la plus célèbre de cette chanson, Yesterday, c'était Paul McCartney, bien sûr. Il s'agit de la toute première prise de cette chanson le 14 juin 1965 au studio EMI à Londres. Alors que n'a-t-on pas dit sur Yesterday, sans doute l'air le plus célèbre des Beatles ? Il faudrait peut-être commencer par une évidence, Paul McCartney l'a composé et interprété absolument seul, ce qui était sans précédent. Les Beatles étaient un groupe de rock'n'roll, et il n'était pour eux pas question de mettre cette chanson en avant. Elle était trop solitaire, entre guillemets. Alors l'histoire est très connue, je vais néanmoins la rappeler, tout le monde ne la connaît pas par cœur. Paul McCartney, qui vient d'avoir 81 ans, en avait alors 22. Il était alors fiancé à Jane Asher, une jeune actrice londonienne dont les parents, plutôt aisés, habitaient une maison dans le quartier de Marylebone, ça s'écrit Marylebone à Londres. Les Asher lui avaient laissé l'usage d'une chambre de bonne, une toute petite mansarde avec une unique fenêtre, idéale pour un artiste, comme il l'a écrit lui-même, et dans laquelle il était arrivé à coincer un piano droit. Un matin, Paul se réveille avec une mélodie dans la tête, et d'une façon quasi somnambulique, plaque des accords. Sol majeur, fa dièse mineur septième, si majeur, mi mineur et mi majeur pour conclure. Et ça marche. Il se dit que ça doit être un vieil air de comédie musicale, peut-être Cole Porter ou Fred Astaire. Et comme les paroles ne lui reviennent pas, il chante ce qui lui passe par la tête, Scrambled Eggs, Oh my baby, how I love your legs, qui donnerait quelque chose comme œufs brouillés, oh ma chérie, comme j'aime tes mollets, enfin, ce genre de truc débile. Il est persuadé qu'il s'agit d'une chanson déjà connue. Il la joue à une chanteuse qu'on voyait souvent dans les programmes de la télévision britannique dans les années 50, Alma Cogan, mais à laquelle ses œufs brouillés ne disent strictement rien. Paul est bien obligé d'admettre que la chanson n'existe pas et que c'est à lui et à nul autre, qu'une force inconsciente l'a, pour ainsi dire, dictée. Il l'a fait écouter aux trois autres Beatles, qui la trouvent très réussie, mais ne voit pas trop ce qu'ils peuvent y ajouter. Il lui dit « il faut que tu la fasses tout seul ». Et c'est au cours de vacances dans le sud du Portugal, pendant un voyage automobile sur une route côtière, que Paul trouve les paroles de Yesterday d'une façon quasi mathématique. Il s'appuie sur la métrique, hein, et il a aussi en tête cette espèce de dictionnaire de rimes qui est toujours très présent en lui. En tout cas, trois jours après cette première version que vous venez d'entendre, où il est seul à la guitare, et bien George Martin, l'homme qui supervise au studio EMI les séances d'enregistrement des Beatles, persuade Paul McCartney de tenter une expérience, faire accompagner sa chanson par un quatuor à cordes classiques. Pas très rock'n'roll, même pas du tout. Au début d'ailleurs, Paul est très rétif. George Martin le fait néanmoins venir chez lui et lui montre au piano l'orchestration qu'il suggère, dérivée des chorales de Bach. Paul est convaincu, mais il ajoute néanmoins quelque chose d'imprévu. Voici ce qu'il écrit dans son passionnant livre autobiographique qui s'appelle « Paroles et souvenirs » de 1956 à aujourd'hui, je cite. « Mon souci de créer quelque chose qui sonne moderne m'a poussé à ajouter quelques notes que Bach n'aurait jamais songé à utiliser. On a donc inséré la septième mineure, celle qu'on appelle la note bleue. L'arrangement de cette chanson est assez insolite. » Alors de toutes les reprises qui ont été faites de Yesterday, il y en a une que Paul McCartney retient. Ce n'est pas celle de Frank Sinatra, qui est pourtant très connue, mais celle que le chanteur soul de Détroit, Marvin Gaye, a chantée en 1970. C'est vrai qu'elle est magnifique, elle est très différente de l'original, c'est une vraie réinterprétation. On a dit de Yesterday qu'elle avait retranscrit de manière transparente le sentiment de perte qu'avait éprouvé Paul McCartney quand il avait appris à l'âge de 14 ans la mort de sa mère, emportée par un cancer. Soudain, je ne suis plus que l'ombre de l'homme que j'étais. Et surtout, pourquoi est-elle partie? Je ne sais pas, pas un mot. Beaucoup ont trouvé ça limpide. Paul McCartney a longtemps démenti ses interprétations. Pourtant, dans le livre dont je vous parlais, sorti en 2021, donc « Paroles et musique » de 56 à aujourd'hui, il évoque une évolution. Et voici comment il conclut les quelques pages qu'il consacre à Yesterday. Je le cite à nouveau. « Ce drame était peut-être bien présent en filigrane, de façon inconsciente, dans cette chanson. Aujourd'hui, je ne suis pas surpris, poursuit-il, que cette expérience ait refait surface dans cette chanson où la douceur le dispute à une indicible douleur. » C'est très bien dit. Et il ajoute enfin ceci. Lorsque j'ai composé Yesterday, je venais de quitter Liverpool pour m'installer à Londres. Je voyais s'ouvrir à moi tout un monde de possibilités. Tout ce que j'avais vécu par le passé, hier, ne couvrait qu'une très brève période à ce stade de ma vie. À présent, la chanson paraît encore plus pertinente, plus poignante, oui, au vu du temps qui s'est écoulé depuis sa création. Je dois avouer que cet aspect de l'écriture de chansons n'est pas pour me déplaire, bien au contraire. Alors voilà, je vais consacrer l'émission de ce jour à ces mélodies lumineuses, aussi légères que poignantes parfois, qui ont traversé, comme il le dit, le système nerveux de Paul McCartney, jeune avec les Beatles. Rappelons qu'il n'avait que 27 ans quand le groupe a cessé de vivre, et puis aussi quand il était plus âgé. Voici la chanson des Beatles que préférait Kurt Cobain. Ben oui, le Kurt Cobain de Nirvana, And I Love Her. Elle figure dans l'album A Hard Day's Night qui est paru en 64. Quatre garçons dans le vent en français. À l'époque, on traduisait, on adaptait tout, comme on le fait d'ailleurs encore, je crois bien, au Québec. Une chanson inspirée par l'amour que Paul éprouvait pour sa fiancée londonienne Jane Asher, dont la famille lettrée, liée au monde du spectacle, avait accueilli Paul comme un fils. L'intro qu'avait trouvé George Harrison et la modulation au milieu de la chanson, un demi-ton au-dessus, c'était surprenant, donne toute sa fraîcheur à cette chanson. I give her That's all I do, and if you saw my love, you'd love her too. I love her. And Everywhere, ici, là et partout, figure dans l'album Revolver que les Beatles ont enregistré pendant le printemps 1966 au studio EMI à Londres et publié au milieu de l'été. McCartney écrit à propos de cette chanson que vous venez d'entendre « Si on creuse un peu, je crois bien que de toutes mes compositions, Here, There and Everywhere est ma préférée. » Néanmoins, McCartney est assez laconique, voire énigmatique, au sujet de cette chanson. « Ce que j'aime surtout, écrit-il, c'est qu'on se croit en train de fouler un sentier à travers la lande, quand soudain, on se retrouve au point de départ. » Le genre de formule qu'on peut lire également dans le livre que Bob Dylan a récemment consacré aux chansons des autres, hein, qui ont marqué son parcours, philosophie de la chanson moderne, une espèce d'aphorisme zen qui vous plonge dans une méditation en spirale dont vous ne sortez jamais, ce qui est sans doute le but. En tout cas, McCartney l'a dit et redit, la mélodie et le style de Here, There and Everywhere sont inspirés en droite ligne d'une chanson qu'il considère comme la plus belle jamais écrite, en tout cas au XXe siècle, God Only Knows des Beach Boys, celle qui inaugurait la seconde phase de l'album Pet Sounds des Beach Boys, un album que McCartney et les autres Beatles avaient découvert à sa sortie en mai 1966, alors qu'ils étaient en plein enregistrement de Revolver. La tendresse de la mélodie, la délicatesse des harmonies vocales, tout y évoque cette douceur assombrie par l'inquiétude qui caractérise le style qu'avaient alors adopté les compositions de Brian Wilson, le compositeur des chansons des Beach Boys. Here, There and Everywhere débute par une intro un peu désuète dans le style des standards de comédie musicale des années 30 qui commençait parfois par une sorte de morale, un peu comme certaines fables. Pour mener une vie meilleure, j'ai besoin que mon amour soit là. Bon, voilà qui semble clair. Après, néanmoins, ça se trouble un peu. Ma vie qui change grâce à un signe de sa main. Je regarde ses yeux et j'espère être toujours là. Je la veux partout et si elle est près de moi, je sais que je n'ai pas à m'en faire, mais l'aimer, c'est avoir besoin d'elle. Pour citer un fameux auteur, c'est un peu le vertige de l'amour, enfin les vertiges de l'amour. On peut entendre absolument ce qu'on veut dans Here, There and Everywhere, une chanson qui évoque le désir d'éternité propre à l'amour partagé, peut-être aussi une ombre d'inquiétude, la brusque prise de conscience que les choses peuvent avoir une fin, ce qui est insupportable quand on le découvre pour la première fois. Oui, rien n'est sûr, rien n'est permanent, tout est volatile et la personne dont on est le moins sûr parfois, eh bien, c'est soi-même. Tous les amoureux, sans doute, ont connu et connaissent ça. Et c'est le talent, on peut dire le génie, en tout cas moi je le dis, de Paul McCartney d'évoquer ce moment avec cette délicatesse de touche qui le caractérise sans jamais rien imposer.
Very Good Trip, Paul McCartney.
McCartney.
Picks up the rice in the church where a wedding has been. Lives in a dream, waits at the window, wearing the face that she keeps in a jar by the door. Who is it for? All the lonely people. Where do they all come from? All the lonely people. Where do they all belong? Father Mackenzie, writing the words of a sermon that no one will hear. No one comes near, look at him working, darning his socks in the night when there's nobody there. What does he care? All the lonely people, where do they all come from? All the lonely people, where do they all belong? Rigby died in the church and was buried along with her name. Nobody came, Father Mackenzie, wiping the dirt from his hands as he walks from the grave. No one was saved, all the lonely people. Where do they all come from? All the lonely people. Where do they all belong?
Wednesday morning at 5 o'clock, as the day begins, silently closing her bedroom door, leaving the note that she hoped would say more. She goes downstairs to the kitchen, clutching her handkerchief. Quietly turning the back door key, stepping outside, she is free.
We gave her most of
dressing gown. Picks up the letter that's lying there, standing alone at the top of the stairs. She breaks down and cries to her husband, "Daddy, our baby's gone." Why would she treat us so thoughtlessly? How could she do this to me? She,
we never thought of ourselves,
is leaving.
Never a thought for ourselves.
Oh.
We struggled hard all our lives to get by.
She's leaving home after living alone for so many. Friday morning at 9 o'clock, she is far away, waiting to keep the appointment she made, meeting a man from the motor trade.
She, what did we do that was wrong?
Une chanson qui a fait date et qui est restée un classique, She's Leaving Home, un des sommets du jeune Paul McCartney, il n'avait pas encore 25 ans, dans un des albums les plus connus évidemment des Beatles, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, sorti à la fin du printemps 1967. John Lennon y a contribué de façon très limitée en ajoutant quelques formules qu'il se rappelait avoir entendues enfant dans la bouche de sa tante Mimi, la femme qu'il avait élevée, puis on entend évidemment aussi sa voix. Paul McCartney dit s'être inspiré pour le sujet et l'approche de She's Leaving Home de ces téléfilms que produisait la BBC et que toute la Grande-Bretagne regardait, des téléfilms consacrés à des sujets de société, comme on dirait aujourd'hui, souvent douloureux. Paul avait vu le titre d'un journal, une lycéenne abandonne sa voiture et disparaît. Et à partir de là, il avait imaginé une histoire comme pour une comédie musicale. McCartney a plusieurs fois souligné qu'au temps où les Beatles étaient encore dans les limbes et que lui et Lennon s'exerçaient à écrire leurs premières chansons, parfois installées dans la véranda de la maison du père McCartney, il inscrivait dans un cahier des choses comme encore un classique de Lennon et McCartney sur le modèle des compositeurs de comédies musicales de Broadway comme Rodgers et Hammerstein. Ce qui n'était pas trop du goût de Lennon, parce que lui, en fait, de comédie musicale, à part West Side Story, il n'aimait rien. Toujours est-il que cette idée qu'une chanson pouvait raconter une histoire, qu'elle devait se dérouler comme une scène de théâtre ou de film, avait, depuis longtemps, germé en lui. Et de fait, She's Leaving Home est construite comme une petite opérette. Il y a un narrateur qui raconte « Mercredi matin, à 5 heures, au point du jour, elle ferme doucement la porte de sa chambre, laissant un mot qui, espère-t-elle, en dirait plus, etc. etc. » Puis il y a une sorte de cœur de tragédie grecque qui intervient et s'exclame, exprimant le point de vue des parents, leur désarroi, leur incompréhension. « Nous avons sacrifié notre vie pour elle, etc. etc. » Alors je reviens à la chanson que j'ai diffusée juste avant et que tout le monde ou presque a reconnue, Eleanor Rigby. Un autre sommet de l'album Revolver. Ce qui me semble le plus intéressant dans Eleanor Rigby, c'est le fait que Paul McCartney avait déjà en tête, en la composant au piano, une orchestration classique de quatuor à cordes. Il se projetait, à 24 ans, vers un âge qui lui paraissait alors lointain et très respectable, 30 ans. Et oui, un âge auquel il fallait se préparer et où, dans sa vision de très jeune homme des années 60, on cesse d'écrire des chansons futiles parce qu'on devient un monsieur sérieux, on se consacre à des œuvres respectables, des sonates pour piano ou que sais-je, un oratorio. D'ailleurs, il en composera bien plus tard. Dans ce qu'on appelle les pizzicati qui accompagnent Eleanor Rigby, vous savez, ces cordes de violon pincées, il y a une réminiscence certaine du style du compositeur new-yorkais Bernard Herrmann, particulièrement connu pour ses musiques destinées aux films de Alfred Hitchcock. On entend ces pizzicati dramatiques dans la fameuse scène du meurtre sous la douche dans le film Psychose. Et ça a d'ailleurs toujours fait rigoler McCartney, son petit côté espiègle et même acide, fort bien dissimulé, que cette chanson pleine de compassion envers une de ces personnes qu'on appelait alors avec condescendance une vieille fille, puisse susciter l'image d'une momie effrayante pivotant sur son fauteuil à roulettes. Autre élément notable, McCartney a pu décrire le rythme de Eleanor Rigby comme, je cite, « asiatique indien ». Je n'y aurais pas pensé, mais je crois comprendre ce qu'il veut dire. Sinon, le thème de la chanson est connu, comme d'habitude, l'air et le rythme lui sont venus en premier avec des paroles sans queue ni tête, et puis une image, une vieille femme qui ramasse des grains de riz devant le porche d'une église après un mariage. C'est un peu comme une enquête qu'il lui faut résoudre. Qui est-elle? Pourquoi? Que s'est-il passé? Paul McCartney a raconté qu'il avait été scout, il y en a sûrement qui vont penser ça m'étonne pas, et il aimait bien rendre des services à des vieilles dames qui vivaient seules, ils faisaient leurs courses, ils achetaient leurs médicaments à la pharmacie, des trucs comme ça, ils récoltaient de cette façon quelques sous. Et alors il aimait bien donc leur parler, les écouter, les observer, il accumulait ainsi de la matière comme un auteur de nouvelles. On imagine un mot passant, notant des détails comme la pauvre vieille qui n'aura jamais connu l'amour, ouvrant une boîte de nourriture pour chat, parce qu'elle n'a aucun autre moyen de se nourrir. Il y a chez McCartney une sorte de tendresse cruelle, très présente dans Eleanor Rigby. Il est peut-être temps d'entendre d'autres chansons moins connues d'après les Beatles et tout aussi belles.
France Inter,
RTBF La Première,
Mishka Assayas, Very Good Trip.
Des sommets de l'œuvre en solo de Paul McCartney, Waterfalls, une chanson qui remonte à l'année 1980. Elle figurait à l'origine dans un album qui s'appelait McCartney 2. Assez curieux, hein, il l'avait bricolé tout seul chez lui grâce à du matériel emprunté au studio de Abbey Road alors qu'il avait mis son groupe Wings sur la touche. C'est une période où les petits synthétiseurs, légers et maniables, commençaient à se répandre et Paul McCartney, fatigué comme beaucoup alors déjà par le côté laborieux et formel du travail en studio, avait eu envie de se lancer dans des expérimentations seul dans son coin. « Je bidouillais tout seul, écrit-il, comme un savant fou, barricadé dans son laboratoire, et presque par accident, j'ai achevé environ 18 chansons. » McCartney 2 est un des plus curieux albums qu'il ait réalisé. Il y a des titres qui ont assez mal vieilli, d'autres qui sont plutôt déroutants, d'autres qui auraient sans doute pu être mieux réalisés, comme celui qu'on vient d'entendre, une de ses plus belles mélodies, « Waterfalls, hein, comme des cascades ». Ne va pas sauter dans des cascades, reste près du bord du lac. Ceux qui sautent dans les cascades font parfois des erreurs. Comme McCartney l'a raconté, ça lui est venu très simplement. Il était le beau-père d'une grande fille, Heather, âgée de 18 ans, et de trois jeunes enfants qu'il avait eus avec la femme américaine avec laquelle il s'était marié en 1969, la photographe Linda Eastman, également musicienne et membre du groupe Wings, Mary, Stella et James. Et il avait peur, comme tous les parents, qu'il leur arrive malheur. Néanmoins, il n'y a pas que ça. Quelques mois après la sortie de cet album, le 8 décembre 1980, un dingue allait tirer des coups de feu et assassiner John Lennon devant l'immeuble new-yorkais où celui-ci habitait. Les Beatles, commentent McCartney dans le livre dont je vous ai parlé, avaient leur lot d'admirateurs obsessionnels. Cette chanson, poursuit-il, a bien sûr été composée avant le meurtre de John. Mais la gloire ne vient jamais sans rançon, et qui devient célèbre voit sortir de l'ombre des personnages bien singuliers. Les conseils prodigués par les parents aux enfants sont universels, conclut-il. Et il cite cet autre passage de Waterfalls. « Ne pars pas chasser des ours polaires sur les terres inconnues. Un ours polaire qui a l'air très gentil pourrait bien avoir envie de te ramener chez lui. » Alors bien sûr, hormis le clavier électrique que Paul McCartney utilise dans Waterfalls, les sons de cordes synthétiques qui accompagnent la chanson ont pas mal vieilli. Et encore aujourd'hui, Paul McCartney se dit que cette chanson aurait mérité mieux, mais on peut aussi dire qu'elle a le charme d'une maquette un peu désuète, un charme qui aujourd'hui perdure. Juste avant, une splendeur, Warm and Beautiful, une chanson qui figure dans un album bien oublié aujourd'hui, signé Wings, Wings at the Speed of Sound, qui était sorti en 1976. À ma connaissance, Wings at the Speed of Sound n'a jamais figuré dans une de ces listes des albums, entre guillemets, incontournables ou indépassables des années 70, période durant laquelle la critique rock dans son ensemble a jugé négativement ou au mieux avec une condescendance distraite la production de Paul McCartney avec Wings. J'aurai bien sûr l'occasion d'y revenir parce que ces jugements, rétrospectivement, paraissent souvent très injustes. En tout cas, Woman Beautiful dit quelque chose de très beau quand on est amoureux ou qu'on espère le redevenir quand on ne l'est plus. Un amour si brûlant, si beau, tient quand le temps lui-même s'effondre. C'est une chanson que Paul McCartney a fait jouer par un quatuor à cordes lors du concert en hommage à Linda qu'il a eu le chagrin de perdre en 1998 des suites d'un cancer alors qu'elle n'avait que 56 ans.
Some days I look at you with eyes that shine. Some days I don't believe that you are mine. It's no good asking me what time of day it is, who won the match or scored the goal. Some days I look into your soul. Sometimes I laugh to think how young we were. Sometimes it's hard to know which way to turn. Don't ask me where I found that picture on the wall, how much it cost or what it's worth. Sometimes I laugh to think how young we were. We don't need anybody else to tell us what is real. Inside each one of us is love, and we know how it feels. I cry for those who live in fear. Some days I don't remember why I'm here. No use reminding me, it's just the way it is. Who ran the race or came in first? Some days I cry for those who fear the worst. Mm-hmm.
horse's love, and we know how it feels. Some days I look at you with eyes that shine. Some days I don't, but don't believe that you're mine. It's no good asking me what time of day it is, who won the match or scored the goal. Some days I look, some days I look into your soul.
Would you care to sit with me for a cup of English tea? Very twee, very me, any sunny morning. What a pleasure it would be, chatting so delightfully. Nanny bakes fairy cakes every Sunday morning. Miles and miles of English garden stretching past the Sunday morning. Miles and miles of English garden stretching past the willow tree. Lines of hollyhocks and roses. Listen most attentively. As a rule, the church bells chime when it's almost supper time. Nanny bakes fairy cakes on a Sunday morning.
C'est la règle, les cloches de l'église sonnent quand arrive l'heure du dîner. Et la nounou met des madeleines au four le dimanche matin. L'évocation d'une Angleterre rurale délibérément désuète, une Angleterre aristocratique, dirait-on, par Paul McCartney, c'était en 2005, dans un album qui s'appelle Chaos and Creation in the Backyard, un de ses meilleurs, sinon son meilleur, du 21e siècle. La chanson s'appelle English Tea, c'est un peu une blague sur le fait qu'aujourd'hui aux États-Unis, quand un citoyen britannique demande du thé, il faut qu'il précise quel type de thé il veut, et il doit préciser du thé anglais. Et quand Paul était gamin, évidemment, ce genre de subtilité n'existait pas dans son pays, c'était a cup of tea, voilà, une tasse de thé, et c'est tout. Ray Davies, des Kinks, n'aimait rien tant à la fin des années 60 que célébrer de façon à la fois narquoise et attendrie cette Angleterre villageoise qui était déjà désuète voici un demi-siècle. Il aurait pu écrire les paroles de cette chanson. Il y a quelque chose d'ailleurs aussi de Lewis Carroll, hein, l'auteur de Alice au Pays des Merveilles, dans ces images de ces rangées de roses trémières qui, penchant leurs fleurs, se hissent, pour ainsi dire, du col pour voir et entendre ce qui se dit dans la maison. On imagine un manoir et un grand parc à la fin de l'été. C'est évidemment très littéraire. Il s'amuse à employer des expressions de vieilles personnes d'autrefois, comme peradventure, hein, d'aventure. Chaos and Creation in the Backyard, c'est un album qui est paru, je le rappelle, en 2005 et que je vous recommande chaudement. Paul y a joué seul quantité d'instruments inhabituels comme du bugle, du carillon ou de la sitar. C'est un album qui a marqué le retour en grâce auprès d'une certaine critique rock qu'il avait longtemps toisée hein, de haut, de Paul McCartney.
France Inter,
RTBF La Première.
Pour se quitter, une chanson d'un album quelque peu oublié, paru en 2001, Driving Rain, une chanson qui s'appelle From a Lover to a Friend. Des paroles franchement sans queue ni tête, d'où émergent quelques formules néanmoins frappantes. J'en cite une, « Comment je vais pouvoir marcher si je n'arrive pas à trouver le chemin ?» Je rappelle que Driving Rain était le premier album de chansons originales après la mort de Linda.
Is clear. Do it now while the I'm taking the decision that I'm making is the right one, or I'm never gonna know. Got the time, the inclination, I have answers your invitation. I'll be leaving in the morning, watch me go.
Do It Now, une chanson récente de Paul McCartney. Elle figure dans un album, son avant-dernier, qui est paru en 2018, Egypt Station. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je remercie très chaleureusement Josépha Lebrun qui a réalisé l'émission. Il y avait Loïs Moreau à la technique et je n'oublie pas Romain Couturier à la discothèque de Radio France. La prochaine fois, on explorera la face soul et funky de Paul McCartney. Il y en a évidemment une. La suite donc au prochain numéro.
Let's rock. À bientôt.